RMC, entre les poteaux,
Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, on y est, samedi, c'est la guerre des étoiles, 5 côté toulousain, 4 de l'autre pour le Leinster, la finale que tout le monde attendait entre les deux meilleures équipes de Champions Cup cette saison. Mais les étoiles, elles ne seront pas que sur les maillots, elles seront aussi sur le terrain avec des duels XXL, Bye Furlong, McCarthy Flamand, Cross Van Der Fleer, Dupont, Gibson Park ou encore James Lowe face à la cavalerie toulousaine. Ça va être dantesque. Et pour parler de cette finale, pour parler de cette compétition, déjà il nous fallait Denis Charvet qu'on est très content de retrouver dans Entre les poteaux. Salut Denis, comment ça va ?
Salut Wilfried, tu m'as manqué, ça fait quoi, un petit mois ?
Comeback, comeback dans Entre les poteaux, Denis. T'es en pleine bourre ? Ouais, pas bon, tout à fait
ouais,
t'es prêt pour la finale ?
On revient, oui, pour la finale, oui. Mais je serai pas à tes côtés, malheureusement. Mais
apparemment, la télé. Tu vas être dans la préparation. En plus, Denis, nous fallait des hommes expérimentés, titrés. Et là, il n'y a pas mieux en termes de compétition européenne. 96 matchs pour l'un, 84 pour l'autre. 3 titres chacun en 2003, 2005, 2010. Eux ont marqué l'histoire du club, comme le dit Hugo Mola. Dans Entre les poteaux, on a la chance d'avoir Clément Poitronneau et Jean Bouilloux. Bonjour, messieurs.
Salut, Wilfried.
Bonjour.
Salut, messieurs. Tu veux le répéter, peut-être, Jean ?
Salut, Wilfried.
On est en direct. Alors, pour dire les coulisses aux gens, on est à la fin de l'entraînement. On est au stade Ernest Vallon, en direct de la fin de l'entraînement. On a encore des joueurs qui sont en train de taper dans le ballon. Et on a la chance de les avoir. Et c'est gentil de leur part d'être là. Respectivement, entraîneur des arrières. Non, entraîneur des avants, c'est le bon intitulé parce que des fois il y a entraîneur de l'attaque, ouais. Des skills, des.
C'est le nouveau rugby.
C'est le nouveau rugby, mais
ouais.
Vous c'est ça ou c'est non
ouais, c'est ça,
je t'ai vu hocher la tête, Clément.
Bon, c'est un peu. C'est... Tout est interconnecté. On parle
oui.
Plus de.
Il n'y a plus d'arrière, d'avant,
de... d'attaque, de défense.
Surtout chez vous. Bon. Vous avez aussi, comme on l'a précisé, une grande expérience de cette compétition avant de se retrouver. Avant de retrouver samedi, pardon, votre meilleur ennemi.
Et c'est fini ! Voilà ! Toulouse qualifié pour la finale de Champions Cup, la 8e de son histoire.
Oh, est-ce que ça passe ? Poteau sortant. Et c'est fini !
C'est fini !
Poteau sortant, transformation ratée. Finalement, Toulouse bat Perpignan.
Bravo.
22 à 17.
Ah oui.
Bravo Toulouse pour le titre de champion d'Europe, le deuxième dans l'histoire du Stade Toulousain.
Michalak, et c'est terminé ! C'est terminé ! Le Stade Toulousain est champion d'Europe de rugby en 2005.
Toulouse
est donc champion d'Europe pour la troisième fois de son histoire.
Il est en touche !
C'est fini !
Monsieur Barnes, que dit-il ?
C'est fini !
Fini ! Fini, Toulouse est sacré champion d'Europe. Toulouse remporte son 4e titre, c'est de la folie. Place du Capitole, Toulouse est le plus grand club d'Europe et c'est tout un peuple rouge et noir qui va fêter ça.
On va parler de ces souvenirs. On va parler de ces souvenirs avec vous, qui sont pas si lointains ou lointains. On va voir avec vous dans vos têtes, dans vos esprits. Mais déjà, quel parcours pour le Stade Toulousain cette saison en Champions Cup. Denis, pour s'en rendre un peu plus compte, on vous redonne tous les résultats. 52-7 contre Cardiff, 47-19 au Harlequins, 48-24 en Ulster, 31-19 face à Bath et en phase finale, 31-7 face au Racing, 64-26 contre Exeter et enfin, en demi-finale, 38-26 face au Harlequins. Est-ce qu'on peut parler de parcours parfait, messieurs ? Jean ?
Bah, c'était l'objectif un peu en début de saison pour pouvoir assumer des réceptions à domicile sur les phases finales. Donc oui, c'est sûr qu'on a fait un très beau parcours cette année. Ouais.
Un regard là-dessus, Clément ? Si vous avez dit dès le début quand même, il y a des scores marquants.
Oui, oui, bien sûr. Non, on a, comme l'a dit Jean, on a fait le job parce qu'on ne voulait pas retrouver les mêmes difficultés qu'on avait eues les saisons précédentes, à savoir se déplacer lors des phases finales. On sait tous qu'on y laisse beaucoup d'énergie à chaque fois. Donc c'était un vrai avantage de recevoir l'ensemble des phases finales jusqu'à cette finale. Mais il y a aussi les circonstances. On a joué des équipes qui jouent au rugby, qui ont un jeu ouvert, plutôt ouvert. Donc ça a aussi favorisé les scores importants.
Oui, favorisé, mais en même temps, ouais. Clément, au vu des matchs, des rencontres disputées en Coupe d'Europe, j'ai l'impression que c'était votre objectif premier. Je pense que vous avez dû
ouais,
le cibler.
Ouais. On leur a dit plusieurs fois cette saison aux joueurs, Denis, ouais, qui semblait obnubilé un peu.
Bah, c'est un titre qui nous échappe depuis quelques années maintenant, même si le dernier n'est pas si vieux. Mais
2021.
Voilà, on a échoué en demi-finale à chaque fois. Voilà, ça a toujours été des défaites assez douloureuses. Donc oui, on avait envie de jouer cette Coupe d'Europe à fond, d'autant plus que le format de la compétition, qui est relativement court et intense, était plutôt favorable par rapport à la longueur de cette saison, à cette Coupe du Monde, aux doublons qu'on allait rencontrer, parce qu'on a repris début août, quoi. Donc ça a quand même été ça a quand même une saison très longue. Donc ce format de compétition nous allait plutôt bien en termes d'objectifs et de format, donc. Mais bon, voilà, les objectifs, ils viennent aussi avec le temps, quoi. Aujourd'hui, on est plutôt bien placé en championnat puisqu'on est assuré de faire la demi-finale. Donc ça va devenir aussi un objectif. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur cette finale.
On a envie de fouiller un peu aussi dans vos souvenirs, parce que je vous ai dit, c'est les plus de matchs, le plus de titres pour vous, ça te fait sourire, Jean. Mais on a envie de fouiller un peu pour avoir vécu des matchs où vous étiez sur le terrain à l'époque. On a connu l'ancienne Coupe d'Europe. Alors c'est peut-être difficile à dire, messieurs, mais est-ce qu'elle n'était pas encore plus dure, ne serait-ce que pour sortir des poules? Vous vous souvenez qu'à l'époque, La moindre défaite, le moindre bonus échappé, ça pouvait tout changer, ça pouvait être fatal. Est-ce qu'en comparaison, même si là en phase finale c'est du costaud, mais...
Ce qui change, c'est que là il y a des huitièmes de finale. Donc forcément la qualification elle est plus facile puisqu'on se qualifie en huitième, alors qu'avant tu passais pour les quarts de finale. Donc oui, forcément il y avait moins d'équipes qualifiées. Après, est-ce que c'était plus dur? J'ai pas la sensation, c'est toujours une compétition intermédiaire entre... le championnat domestique et le niveau international. Donc je crois que c'est encore le cas et on l'a vu, hein, les équipes se préparent quand même fort sur ces matchs-là, même si les scores sont élevés, on le voit, il y a quand même beaucoup d'intensité à chaque fois.
Ils sont présents, vos souvenirs de ces matchs?
Toujours.
Oui, même
qu'est-ce
si...
Qu'est-ce qui vous revient, si je vous parle de Coupe d'Europe?
Même si le temps passe.
À Basse, sous la pluie glaciale, ouais, c'est quoi les souvenirs marquants?
Oui, il y a celui-là, il y a Trevor, je me souviens.
Trevor Brennan.
Trevor Brennan.
Lequel? Souvenir.
Oui, la finale.
À la finale 2003, à Dublin.
Ouais, ouais. À Dublin, où, je ne sais plus le nom du stade d'ailleurs.
Lansdowne Road.
Lansdowne Road, voilà.
Lansdowne.
La coutume, c'était d'amener de l'eau de lourde. Les papiers amenaient toujours de l'eau de lourde dans le vestiaire.
Alors les papiers, c'est ceux qui vous accompagnent, les attendants, on va dire.
Il y avait René, non, qui faisait ça aussi, René Buscatel.
Voilà, donc eux, ils mettaient de l'eau de lourde au pied des poteaux. Et Trevor, quand il a vu l'eau de lourde dans le vestiaire, bon, mais il s'est jeté le flacon sur la gueule.
Ça, c'est bon, ça.
Ça, c'était très, très drôle.
Il ne pouvait pas perdre.
Il ne pouvait pas perdre ce match.
Je ne la connaissais pas, celle-ci. Elle est fantastique, ouais. Il n'y a que des filles finale qui reste, vous avez des matchs de poule, hein, Clément, si tu cherches dans ta mémoire. Enfin, ouais, demi-finale à Leicester, je crois que c'est 2008. Enfin, non, je sais pas, qu'est-ce que tu.
Ouais, la demi-finale à Leicester, ouais, c'est qui était pas mal, ouais. J'ai un souvenir qui nous a fait beaucoup rire et qui continue de nous faire rire. On sort dans le couloir, on était chaud évidemment, c'était juste avant de rentrer sur le terrain. On sort dans le couloir face à l'équipe de Leicester et moi je me retrouve avec Fred, Vincent, et là il y a les frères Touliagi qui se mettent à côté de nous. Et il y a Serge Laïr qui sort du vestiaire et qui dit ouais, regardez-les bien, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous.
Ça, c'est bon, ouais.
Et donc on s'est regardé avec Fred et Vincent, on s'est dit bah, juste 30 kilos et donc ouais, ça nous a un peu détendu avant de rentrer sur le terrain, mais en même temps un peu inquiété parce que quand même il y avait des animaux en face de nous, mais très très costaud, mais bon, on s'était bien sorti puisque plutôt que de leur rentrer dedans, on était passé à côté, on avait réussi à gagner, mais c'est vrai que c'est bon, voilà, ces petites anecdotes comme
cette
ça.
Cette phrase, elle est incroyable parce que tout le monde le dit en fait. Les entraîneurs qui te disent qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi, quoi. Parfois, ouais. Tu regardais, quand tu joues les Blacks, que tu joues les Sudaf, tu te dis ouais, mais ils ont beaucoup plus que nous. Hein.
Ouais, voilà, donc il fallait trouver d'autres solutions. Bon, ça en était sorti, mais c'est vrai que sur le coup, on s'est dit ouf, ça va être long, ça va être une longue après-midi.
Le match où William Servette laisse un peu de son nez là face à Touliagi, non, qui le percuter peut-être la première, hein, c'est ça?
Son nom Néné vient de là.
Néné, c'est vrai?
Ouais, c'est ça. Ah ouais. Parce qu'après ça, à l'époque, tu jouais plus souvent. Hein. Blessé, on va dire, et il avait enchaîné je ne sais plus combien de matchs.
7 fractures, je crois.
Ouais, et les 7 matchs suivants, il s'était fracturé, je ne sais pas combien de fois le nez à chaque fois. Ça avait été l'enfer, le pauvre.
J'ai une question pour les deux, Wilfried, c'est pas dans le conducteur, mais j'en profite pour leur poser la question.
Tu vas changer complètement de thème.
Non, pas du tout. Par rapport à aujourd'hui, avec ces provinces sud-africaines, quel est votre regard aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça enlève un petit peu le piment de cette Coupe d'Europe, puisqu'on ne l'appelle plus Coupe d'Europe déjà?
Moi, je n'ai pas nostalgie de la Coupe d'Europe, puisque la Coupe d'Europe, bon, voilà, elle a été flamboyante, elle a été géniale, mais elle n'existe plus. Voilà, c'est plus la Coupe d'Europe.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est une nouvelle compétition qui est intéressante aussi, mais qu'on peut plus appeler la Coupe d'Europe.
Intéressante, intercontinentale, quoi. C'est vrai que c'est une coupe.
Mais est-ce que
vous deux, vous avez pas osé faire ça.
Mais est-ce que c'est des regrets chez vous, ou est-ce que vous êtes déçu justement par cette nouvelle formule?
Ben, qu'ils aillent carrément à une Coupe du Monde des clubs, hein, puisque c'est au final.
Ça revient un peu aux prémices.
Quoi. Donc autant y aller à fond, ou alors il fallait garder la Coupe d'Europe dans telle qualité. Quoi. Mais c'est vrai qu'on sent quand même une envie de mondialiser une compétition de clubs. Et la première étape, c'était d'intégrer les Sud-Africains. Après, on va voir comment ça peut se goupiller. Mais c'est plus la Coupe d'Europe telle qu'on l'a connue, ça c'est certain.
Vous avez eu 3 titres. Vous avez vécu ça ensemble, hein, 2003, 2005, 2010, on l'a dit. Est-ce qu'ils sont tous différents? Est-ce que l'intensité est différente? Est-ce que le souvenir est différent?
Oui, complètement. Oui.
Il y en a qui comptent plus, peut-être, ou qui restent plus dans votre tête?
Le point
le
commun,
premier,
à chaque fois,
peut-être, non?
Ouais, 2003.
2005, ouais, moi, après la prolongation.
La plus marquante, c'est 2005 pour moi aussi.
Ouais. Contre aussi, le Stade français, c'est ça?
Ouais, oui, avec la rivalité en plus.
Edimbourg, non, à Murrayfield.
Avec des mots dans la semaine, des gars de Paris qui nous prenaient vraiment, pas pour des peintres, mais bon, qui nous prenaient...
Vraiment?
Ouais, qui a eu des mots un peu... ouais, voilà. Bref.
Et donc, des noms.
Non, pas de noms, mais bon, ouais, mais c'est Paris dans toute sa splendeur, ils se sentaient supérieurs, quoi, voilà.
Et je crois compliqué qu'on a comme final, d'ailleurs, hein. c'était quand même très, très stressant.
Fermé.
Sur le terrain.
Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'on arrache le match nul à la fin, et on a senti on a senti vraiment une énergie chez nous du fait de revenir chez eux, beaucoup d'abattement, et en fait voilà, ça c'est la tendance est complètement inversée, et c'est vrai que sur les prolongations on n'a pas trop tremblé, alors que bon, on a quand même été en difficulté sur le match.
Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et c'est vrai qu'à la fin de match, le discours sur le terrain des coachs avec les joueurs, on sent les Parisiens un peu plus perdus. Et chez vous, c'est vrai qu'il y a le banc qui apporte énormément, je me souviens avec Fred Michalak et Cédric Aymante en plus. Voilà, celle-ci elle est, voilà, s'il y en a une à part...
Et après celle de 2010, elle est plus dans la maîtrise, même si on se fait peur à la fin. Je crois qu'en 2010, on arrive à notre pic de forme en termes d'âge et de rugby. Et c'était un objectif aussi un peu comme on le vit un peu actuellement, avec des joueurs d'expérience et qui avaient envie d'aller au bout. Et c'était une très belle victoire aussi, mais c'est vrai qu'on était plus les favoris. Donc ce statut-là était plus difficile à assumer peut-être contre Biarritz.
Ça change quelque chose, messieurs, que ce soit
2005. Je te coupe, 2005 avait après 2004. Qui a quand même été une finale Coupe d'Europe compliquée.
Je ne l'avais pas prévu dans le...
Non, mais on ne peut pas ne pas en parler. Mais voilà, c'est...
Face au Wasp. Oui.
Voilà, pour moi,
vous alliez vers la prolongation justement à ce moment-là.
Oui, exact, et... oui, tout à fait.
Voilà, donc avec Robolet qui te
marquait. Pour moi, ça avait quand même une saveur particulière de la regagner tout de suite. Sincèrement, c'était un vrai soulagement.
C'est vrai, c'est une période très forte parce qu'il y a titre 2003, finale 2004, pas loin du titre. Voilà, tu parles de summum en 2010, peut-être en âge. Oui. Mais cette période-là, 2003, 2004, 2005, c'est quand même au sommet. Quoi.
Ouais, on est au sommet européen, mais en club, on est un peu blackboulé dans le top 14. Des équipes comme le Stade français, Biarritz, avec des gros paquets d'avant, nous mettent en difficulté quand même. Et donc, on a cette suprématie entre guillemets européenne, mais dans notre championnat domestique, on a un peu plus de mal quand même. Donc, c'était le petit bémol de cette époque.
Et Denis, c'est à chaque fois contre des clubs français qu'ils ont eu leur titre. Hein. Perpignan, Stade français, Biarritz.
C'est
ça change quelque chose dans votre perception de ça ou rien du tout? C'est une finale de Coupe d'Europe comme une autre?
Ben, je sais pas, peut-être que ça. Et 2021 aussi, hein, La Rochelle.
Donc, c'est vrai.
Oui.
Peut-être.
Vous étiez coach.
Peut-être qu'effectivement, affronter un club français en finale, est-ce qu'on a un petit avantage psychologique à chaque fois? Peut-être, je sais pas.
Qu'est-ce que vous a apporté cette Coupe d'Europe personnellement? Bon, c'est des questions existentielles, un peu de philosophie.
Ben moi, mon premier match avec le Stade toulousain, c'était en Coupe d'Europe, contre les Saracens au Stadium. Et je me souviens d'être parti à Cardiff dans la foulée. Pour mon deuxième match et d'avoir fait une très belle soirée avec Jean dans la foulée.
Avec qui? Avec Jean. Il dit.
Avec Jean.
Ah ouais. Ah ouais.
Ouais, très belle soirée à Cardiff pour mon deuxième.
Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ça, on s'arrêtera là?
Ouais. Très belle soirée, donc très bon souvenir. Donc la Coupe d'Europe.
Tu l'as? Ouais. C'est bon? C'est la référence aux gens?
Mais non, mais rien de
spécial.
Oui.
Bon.
Voilà. Rien de spécial, soirée derrière, rien de spécial.
Votre génération, là, à vous deux, elle a quand même perduré. Elle a duré 10 ans, non, un peu plus.
15 ans.
15 ans? Ah ouais. Non, mais non, je parle de génération, quand vous étiez au top, ça a duré combien de temps à peu près? 15 ans?
15 ans.
Mas Menos.
Denis, il y a eu trois périodes. Il y a eu une période effectivement de la jeunesse, là, entre 20 et 24 ans, là, où ça correspond aux finales européennes, titre 2001.
2000-2005,
ouais. On a l'impression que rien ne peut nous toucher, là. Et puis après, il y a quand même, on prend un grand coup de bâton derrière la nuque. 2006, on prend 45 points contre Biarritz en finale. 2007, pareil, on n'existe pas avant la Coupe du Monde en France.
Il y a une très belle année 2008.
Et voilà, et la renaissance 2008 jusqu'à 2012. Donc il y a eu un petit passage à vide là quand même, pendant 2-3 ans, où on ne savait plus trop comment aborder le rugby. On s'entraînait pas comme les autres, c'était un peu archaïque. Et l'arrivée de Yannick Bru à la tête des Avants notamment, toujours avec Guy Noves, mais a quand même remis beaucoup d'énergie à l'équipe.
D'accord, vous faites du Guy Noves en tant que coach des fois ou jamais?
C'est quoi du Guy Noves?
Je sais pas, rentrer dans la tête des joueurs ou... Non, ça c'est pas votre job, si, on le fait.
Peut-être inconsciemment, mais on a été piqué quand même par Guy.
Ouais.
On peut pas dire l'inverse.
Ouais, j'ai des souvenirs où vous sortiez des fois du stade un peu en pestant parce qu'il vous avait croisé et mis la tête un peu à l'envers.
Ouais.
Non, après.
C'est peut-être plus. Oui, est-ce qu'on peut le faire avec des générations comme ça?
Voilà, c'est plus pareil.
C'est différent.
Ouais.
On les voit.
Les discours sont pas les mêmes, non?
Pas du tout.
Il y a des discours qu'on ne peut plus faire aujourd'hui.
Ouais, je pense qu'il y a des discours que tu peux plus faire. Si tu viens dans un vestiaire, je pense que tu serais épaté de l'ambiance qu'il y a avant un match. C'est
calme,
feutré.
Ouais. Non, c'est musique à fond.
Ah.
Même le matin du match, ils rigolent, ils font des plein de jeux de foot, de balles. Alors que nous, c'était interdit de sourire, quoi. Enfin, Denis, peut-être on était ta génération.
Encore pire.
C'était encore pire.
Ah ben oui, nous, on était moins. Oui, c'était un coup de casque voilà, pour les Avants. Oui, non. Mais
voilà, c'est ça. Et nous, on a hérité de cet héritage-là. Et là, eux, ils sont en rupture par rapport à ça, vraiment. Complètement.
Oui, mais ça vient aussi du professionnalisme du rugby, quand même. Le fait d'être tout le temps ensemble, de se connaître parfaitement. Nous, à l'époque, alors là, je te parle de ma génération, c'était trois fois par semaine. Donc, si tu veux, il y avait une distance qu'il n'y a pas aujourd'hui. Le fait que tu te vois tout le temps, c'est quand même plus facile d'aborder les matchs, il me semble, moi, mais je sais pas.
Ouais, ben y a aussi le fait que je pense que la préparation aussi des matchs n'est pas la même. On pousse quand même très loin le niveau d'analyse.
Oui, voilà, oui.
Donc les mecs, ils ont quand même aussi à analyse. Ils passent beaucoup de temps à l'entraînement, comme tu dis, Denis, aussi à préparer tout ça, évidemment. Donc je pense qu'il y a peut-être un peu même besoin d'aller chercher... des leviers, si tu veux, émotionnels, se taper la tête contre les murs, comme vous pouviez le faire vous à l'époque. Pas, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être lucides et qu'on ne peut pas toujours aller dans ce créneau-là. Quoi.
Mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on les a mis dans un confort qui est extraordinaire. Moi, je sais que je regrette, enfin, je ne regrette pas, mais je veux dire, j'aurais adoré d'être dans un confort comme vous les installez. Quoi,
mais c'est pas confortable, en fait. Confort, c'est pas le mot, parce que.
Ouais, mais quand je dis confort, c'est par rapport à l'appréhension. Oui, mais c'est par rapport à l'appréhension d'un match.
Tout ce qu'ils ont à disposition.
C'est ce confort-là, si tu veux.
Oui, c'est tout le confort par rapport à ça. Je dis. Mais après, tu sais, c'est pareil. Vous jouez contre des mecs qui faisaient la même chose que vous. Nous, on joue contre des équipes qui ont le même niveau de préparation, de confort. Ouais. Donc, tu vois. Voilà, la différence, on va aussi la chercher dans leur cohésion, la capacité à s'aimer fort, à se donner les uns pour les autres, tout avec une analyse qui leur demande quand même aussi de garder la tête froide. Quoi.
Alors justement, sur le abordé, on est en semaine de finale de Champions Cup, vous avez personnellement gagné 3 finales, perdu 2 en Coupe d'Europe. Quelle atmosphère ça a, une finale? Alors Clément, tu as joué ta première finale top 14, dès ta première saison avec les seniors à Toulouse, tout le monde s'en souvient, en 2001, hein, avec Fred Michalak, les genoux de l'équipe, ce qui ne vous a pas empêché d'être champion de France, et visiblement, enfin, de l'extérieur, de ne pas subir la pression de l'événement. C'est ce que ça te donnait? Est-ce que c'était le cas? Et est-ce que ça a pu te servir ensuite?
Ouais, c'était le cas parce qu'on était dans l'insouciance la plus complète. On ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Enfin, 18 ou 19 ans, on était même Jean. Qui était...
Il avait 22, Jean.
Voilà, mais bon, c'est pareil.
Il avait déjà été champion de France.
C'était le...
Non, 99, t'es pas champion?
Non, j'étais à la section 99.
Ah non, erreur de ma part.
Voilà, donc non, c'était les premières. Puis on était quelques-uns quand même à être dans ce cas. Donc forcément, on était plutôt insouciants, on ne se rendait pas compte. Après, la pression, elle vient aussi avec le statut, avec justement les années, avec l'attente qu'il peut y avoir autour de toi, avec l'expérience aussi de te dire que bon, ben, au final, tu te rends bien compte des efforts que ça demande pour arriver jusque-là. Alors que quand tu es jeune, tu ne t'en rends pas compte, ça se fait naturellement. Après, quand tu commences, comme l'a dit Jean, hein, quand tu as une période faste et puis tu commences à bouffer des cailloux, tu te rends compte un peu de la difficulté d'y revenir et d'être champion. Donc la pression, elle peut aussi s'installer par ce biais-là. Quoi.
Mais vous arriviez après la génération, la post-décennie 90, hein, les quatre titres de suite. Est-ce que cette génération vous a porté, on parle beaucoup de transmission ici, vous a porté en termes d'expérience?
Ouais, moi, ce que j'ai ressenti de la saison 2000-2001, c'est ça. C'est... Moi, de l'extérieur, je n'étais pas de Toulouse. Je voyais cette équipe du Stade Toulousain, je me faisais tout un monde. Et au final, l'approche des phases finales des joueurs du Stade Toulousain à cette époque, donc j'imagine que c'était aussi un héritage des années 80, mais il n'y avait pas de stress, pas de pression. Les mecs savaient vraiment où est-ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et toi, en tant que joueur, jeune joueur notamment, ben, de vivre dans un climat où il n'y a pas de stress, où l'événement est un non-événement pendant la semaine et il devient l'événement le jour du match, ben, tu te grilles zéro énergie. Et c'est vrai que tu arrives, on a joué contre les Clermontois plusieurs fois, on les sentait pour le coup habités mais stressés. Alors que nous, à chaque fois, c'était jamais de stress. Et c'est ça, cool, c'est vrai que c'était un truc incroyable.
Denis, vous étiez un peu précurseur dans les années 80, sur les premiers sites des années 80. C'était peut-être pas pareil ?
Toutes les générations.
Non, mais en termes d'aborder les finales, justement, de relaxation, enfin de stress ou de...
Non, on a jamais eu trop de stress, nous. Un peu comme eux, je sais pas. C'est difficile à expliquer le pourquoi, mais c'est vrai qu'on n'était pas habité par un stress qui nous faisait déjouer ou qui nous faisait passer à côté d'un événement.
Après, il y a aussi les questions d'habitude. Quand tu fais, toi, Denis, 85, 86, 89, tu y vas trois fois en 5 ans. Nous, on a eu la chance d'y aller jeune et puis d'y retourner après. Bon, c'est vrai que tu as une forme aussi de d'habitude.
Non, mais là où tu as raison, c'est qu'il y a l'insouciance quand tu es jeune et après, tu as une maturité qui arrive, qui fait que ton expérience n'est plus la même, mais tu as plus de recul sur l'événement, évidemment.
Justement, alors je parlais de cette transmission, car maintenant vous êtes dans le staff, tout comme Jérôme Casalbou, Hugo Mola, voire Jérôme Keino, hein, qui est quand même double champion du monde. Les stades toulousaines sur les finales, championnat de France ou Coupe d'Europe, c'est 27 titres en 37 finales. Donc c'est 22 sur 30 en top 14, ou championnat de France, c'est 5 sur 7. J'évoquais ça dernièrement avec Thibaut Flamand, la semaine dernière. Écoutez, il parle de la façon dont vous abordez ces moments, et notamment du rôle du staff.
Je pense pas qu'il y ait une transmission dans le sens où c'est comme un cours qu'on donne en disant voilà les clés de ce qui fait que ça marche et pourquoi. Je pense que c'est un peu un tout. Je pense qu'il y a forcément cette culture de la gagne qui est très présente. Il y a forcément aussi une expérience collective avec un vécu. On commence à être pas mal de joueurs à avoir vécu plusieurs finales. Un effectif qui est aussi habitué à jouer des matchs en jeu, que ce soit en club ou en sélection. Ça rassure et ça fait relativiser aussi. Donc je pense que ça aide. Et puis je pense qu'après, il y a peut-être une notion un peu plus générale, une forme de sérénité qui vient sûrement aussi des coachs dans la façon de préparer ce genre de match, qui eux aussi ont vécu ce genre de match en tant que joueur et en tant que coach. Et je pense que, alors je pourrais pas expliquer en détail comment ils font, mais je pense que la façon dont on prépare ces matchs fait qu'on se sent confiant et tranquille le jour du match.
Ouais, vous parliez de cette génération, il y a peut-être aussi beaucoup de maturité chez eux.
Non, au final, ils restent jeunes en termes de moyenne d'âge globalement, mais ils commencent à avoir beaucoup de bouteilles, quoi. Donc c'est ça reste des jeunes mecs, mais c'est plus des jeunes joueurs.
Denis ?
Oui, mais non, mais bien sûr, mais chacun a sa personnalité. Et puis on le voit avec Thibaut Flamand, qui est déjà très mature, hein, pour un joueur qui est au stade depuis pas longtemps finalement. 3-4
2020,
ans.
Il arrive en 2021 et il a fait le doublé.
Donc, on voit à quel point il s'est installé au stade, qu'il a pris sa place, qu'il a une réflexion incroyable. Bon, c'est des joueurs intelligents, on le sait, mais chacun a sa personnalité, puis chacun évolue comme en fonction de ça.
Bon, la prochaine, c'est samedi, Tottenham Hotspur Stadium. Un stade que vous allez découvrir. Je crois qu'il y a une délégation de chez vous qui a été la semaine dernière. Vous avez noté des choses, justement. On va voir le stade, le terrain. Non, pas spécialement.
Non,
pas bien. Galtier disait qu'à Édimbourg, le terrain il était plus large de temps. Non.
Non. A priori, les arbitres ne devraient pas être très longs.
Ouais. Non, mais ça peut...
C'est quand même une information importante.
Ouais. Non, mais Jérôme Keno disait ça aussi, qu'il fallait avoir le moins d'inconnus possible en arrivant dans un match, dans un événement comme ça. Et le détail peut aller jusque-là.
Non. Mais après, si, il faut le savoir, ouais. Évidemment, parce que ça peut avoir son influence, mais bon, c'est pas non plus qu'il fasse 98 mètres ou 102 mètres, 70 ou 68 de large, c'est pas...
Bon. Vous retrouvez une équipe que vous connaissez bien.
Le plus important, c'est l'eau bénite.
Vous retrouvez une équipe que vous connaissez bien, votre meilleur ennemi sur les deux dernières années, Leinster, qui vous a éliminé deux fois de suite en demi-finale. L'an passé, vous sembliez bien préparé pour prendre votre revanche. Alors oui, non, c'est pas le cas dans le résultat, mais alors la discipline vous a quand même plombé.
Ouais.
C'est vous prenez deux cartons jaunes, 28-0 de mémoire sur les deux cartons jaunes. C'est la clé, le seul moment. Enfin, c'est ce qui
à 15 contre 15, on est devant.
Ouais. Ah ouais.
Le problème, c'est qu'on en a pris 28 en 20 minutes.
Mais justement, ces cartons viennent aussi peut-être de la pression quand même exercée par Sylvain Lister, qui est quand même hyper efficace, hyper réaliste, clinique. Et c'est vrai qu'ils sont impressionnants dans ce domaine-là. J'imagine que vous avez travaillé en fonction de la défaite de l'année dernière. Sur quel point exactement, si vous voulez le dévoiler.
L'année dernière, ouais, on a voulu se mettre à leur niveau, je pense. Et cette frustration parfois de ne pas y arriver nous a fait déjouer sur le match et on a pris des pénalités. Et on s'est dit cette année qu'en fait, il n'y avait aucune raison de vouloir être à leur niveau puisqu'on était en finale. Donc, on va aller juste les battre. Alors que par le passé, il y avait un petit complexe à se dire.
Complexe, j'allais en parler, ouais. C'est ça, ouais.
Voilà, c'était on voyait une équipe complète qui jouait un jeu léché, qui nous plaisait, voilà. Et on voulait rivaliser avec eux. Et quand on veut rivaliser, c'est que le mec est au-dessus, quoi. Donc, alors que là, on ne se pose même plus la question de vouloir rivaliser, quoi.
Est-ce que cette équipe qui a vu Stuart Lancaster quitter le staff et rejoindre le Racing et le Sud-Africain Jack Tinaber l'a remplacé est la même, Clément, ou a-t-elle un peu changé?
Alors,
sans tout dévoiler.
Non, mais il y a pas de. Non, je. Oui, elle a un peu changé, oui. Ouais. Elle a un peu changé sur.
Ça fait moins symphonique, récité. Est-ce que c'est ça? On a trouvé ça en phase finale.
Parce qu'un entraîneur sud-africain, il a peut-être pas tout à fait les mêmes priorités que Stuart Lancaster. Je vous fais pas un dessin. Donc, elle a un peu évolué dans certains secteurs. Et bon, voilà, à nous de. J'espère qu'on l'aura analysé correctement. Et j'espère que ça, cette fois, ça marchera, mais. Elle a un peu évolué, oui, forcément.
Ça veut dire qu'on s'attend à quelque chose de sud-africain un peu samedi, dans la défense, dans la surprise, de tout ce qu'ils peuvent sortir de...
Bah, stratégiquement, les Sud-Africains nous ont montré pendant la Coupe du Monde quand même qu'ils étaient de grands maîtres de l'adaptation stratégique. Ils ont, pour le coup, on n'a rien appris de nouveau sur cette Coupe du Monde en termes de rugby, mais en termes de management d'équipe, en termes de préparation de match, les Sud-Africains quand même ont été plutôt impressionnants. Donc ils ont cette expertise-là, cette science-là. Donc bon, il n'y a pas de raison que Nilaber ne l'amène pas au Leinster. Donc oui, il faut s'attendre à tout, mais nous les mettre au mot, voilà, c'est pas de complexe, c'est pas essayer de leur ressembler, c'est d'être capable de s'adapter à tout ce qui va se présenter. Et on se prépare en ce sens-là.
Ils ont perdu Sexton. Ça change aussi quelque chose?
Ben oui. C'est déjà l'aura, l'influence qu'il a sur l'équipe en tant que joueur, l'influence qu'il a sur l'arbitrage, je vous en parle pas. L'influence qu'il peut avoir aussi sur ses adversaires, bon voilà, c'est un immense joueur qui connaissait parfaitement la musique, donc c'est sûr que.
Mais bon, il n'était pas là contre nous, il jouait pas à Sexton en finale.
Ouais, ouais. Donc, en plus, ils savent aussi faire. Bon. Faut peut-être mettre la pression sur l'ouvreur titulaire de samedi, mais bon.
C'est ça. C'est ça, comme ça.
Denis, il faut faire des choix aussi. Ils ont des choix à faire. Hein. Richie Arnold, Thibaut Flamand, Ramos, Kinghorn, Malia, c'est cornélien, hein, tout ça.
On va pas leur demander la composition d'équipe.
Non.
On la connaît pas.
Non, mais tu voudrais pas être à leur place, peut-être. Ou si, peut-être, parce que c'est quand même
du
confort.
C'est pas être à leur place. C'est l'armée mexicaine au Stade Toulousain. Moi, quand je vois les jeunes jouer le week-end dernier contre Montpellier, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est, je sais pas comment vous faites au quotidien de gérer cette armée mexicaine. Ça va être un régal et en même temps, ça va être un peu.
Armée mexicaine, c'est péjoratif normalement, un peu, Denis.
Non, pas du tout.
C'est effectif pléthorique et.
Mais ça, c'est
efficace.
C'est l'idée d'Hugo de s'entraîner à 45-50, quoi. Et c'est vrai qu'on a récolté les fruits cette année.
C'est pas trop mal, hein, c'est juste ce qu'on a vu samedi.
Ouais, voilà. Donc, on a des jeunes joueurs qui montent en compétence depuis un ou deux ans. Et là, même deux ou trois, ouais. Mais donc, oui, c'est sûr.
Mais vous êtes surpris de l'éclosion de certains, ou que vous attendiez peut-être pas à ce niveau-là?
Devant, oui, il y a 2-3 joueurs, oui, moi qui me surprennent vraiment, enfin qui me surprennent, oui, qui
Castro Ferreira, par exemple.
Alors oui, alors Castro, il est surprenant parce qu'il est tout jeune, il a 19-20 ans, et c'est vrai qu'il a une maturité pour le coup surprenante. Mais un joueur comme Clément Verger, par exemple, hein, qui
Qui a fait un match incroyable.
C'est pas son premier match incroyable, il en a fait plusieurs cette année.
Il fait des doublons.
Voilà, il fait vraiment d'excellents matchs. Donc voilà, il y a Joël Merclair aussi qui fait des superbes prestations, Guillaume Cramon. Des joueurs dont on parle peu, mais qui
Cramon, il fait un match aussi, incroyable, oui,
ouais.
ce gars-là.
Oui, oui. qui tiennent vraiment l'équipe devant au moment où beaucoup sont absents.
Ouais, Clément, c'est peut-être pas la même joie qu'une qualification en finale, un match contre l'Harlequins, mais celle de samedi après-midi à Montpellier, c'est un plaisir particulier, non ?
Ah non, mais c'est comme la victoire à Clermont, avec une équipe aussi remaniée, enfin jeune. C'est aussi le voilà, c'est du plaisir parce que c'est voilà, c'est un travail qui a été entamé il y a quelques années maintenant avec des joueurs que ben, quand nous on entraînait les espoirs, bon là il y en a plus parce que c'était il y a un petit moment maintenant, mais qui était champion de France l'an dernier ou il y a deux ans, et qui des gamins qui s'entraînent avec nous tous les jours et qu'on prépare pour ces échéances-là, et quand on voit que ça fonctionne, quoi, qu'ils font le job et qu'ils sont impliqués et que ça fonctionne tout simplement. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, voilà, c'est un plaisir différent, comme tu l'as dit, des grands matchs de phase finale de Coupe d'Europe ou de championnat, mais c'est un plaisir particulier et c'est une vraie bouffée d'oxygène, même pour nous, durant la saison. Parce qu'on est à fond, quoi. On est à fond. Et
là, de s'arrêter un peu et de regarder ça et de se dire.
C'est cool, quoi.
Ouais. Vous n'avez peut-être jamais entraîné un groupe si fort, si homogène ? Avec ce qu'on vient de dire ?
Peut-être.
Sur la
peut-être après l'équipe.
Le large groupe.
Oui.
Bon, l'équipe du doublé,
21, elle était incroyable quand même.
L'équipe du doublé quand même était quand
avec
même très solide.
Beaucoup d'expérience à tous les postes.
Aujourd'hui, vous avez quand même un effectif qui est peut-être le plus bel effectif de l'Europe européen. Ça me conteste, on va dire même.
Oui, peut-être, mais après non, mais après.
Dans toutes les lignes, je veux dire, c'est incroyable quand même.
Ouais, après on se le pèle, quoi, j'allais te dire. Ouais, les mecs qui ont joué ce week-end,
oui, bien
c'est
sûr.
C'est vraiment un travail de développement de notre formation qu'a démarré Hugo il y a 6 ans maintenant, avec un fonctionnement qui était inédit à l'époque, qui est repris maintenant par pas mal de clubs, avec des entraîneurs pros qui entraînent aussi les espoirs, avec l'intégration des joueurs du centre de formation quasiment quotidiennement à l'entraînement avec les professionnels. Il faut avoir aussi, excusez-moi, mais les couilles de les faire jouer le week-end. Donc voilà, si on ne les met pas, on ne peut pas savoir si on a une bonne surprise ou pas, quoi. Alors nous, on a un certain confort parce qu'on est en haut du top 14 et que peut-être on peut se le permettre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir le courage de les mettre pour savoir un peu où ils en sont et peut-être prendre une branlée, en prendre 40, mais en tirer aussi les enseignements. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant jouer des gamins, tu ne perds pas de temps sur l'avenir de ton club et de ton équipe, de les exposer, quoi.
On l'a expliqué, ça, dans un papier sur la formation toulousaine sur le site RMC Sport, l'application RMC Sport, si vous voulez aller chercher. Et toute la toile tissée aussi avec les clubs partenaires, enfin, plus, chez les plus jeunes encore, hein, comment vous gérez cette formation. Pour finir, et vous concernant, ça fait respectivement alors 8 ans, 6 ans que vous entraînez ? C'est ça, à peu près 16-18
17-18,
ouais. 17-18, alors 8 et 7 ans. Comment vous voyez votre progression après année, votre évolution? Vous êtes encore des jeunes entraîneurs, hein, on peut le dire comme ça?
Ouais, on commence à avoir un peu d'expérience.
Non, vous sentez plus vieux. J'ai les cheveux grisonnants.
Ouais, moi c'est.
Enfin, peut-être que j'ai pris le 8 ans ou 7 ans d'entraîneur, on peut le doubler, non?
Ouais, ouais.
avec le stress, l'investissement.
Peut-être que le point
tout.
Commun qu'on a avec Clément, c'est qu'avant d'être entraîneur, on n'avait jamais entraîné. Et donc, oui, c'est sûr qu'il y a tout un apprentissage quand même pendant quelques années. C'est pas un job comme les autres. C'est vraiment très différent de ce qu'on peut connaître même en tant que joueur. Donc, d'autres entraîneurs ont eu cette appétence jeune d'être entraîneur. Nous, on l'a pas eu. On s'est jeté dans le bain comme ça. Donc voilà.
Denis ?
Mais en 2027, quand Hugo Mola est rentré en équipe de France, vous allez prendre la suite normalement, non ?
Ouais, ou on ira en équipe de France avec.
Ah, ça c'est bien, ouais.
Ou sinon, si on a la remorque pleine de je sais pas combien, ça sera peut-être le temps de tirer sa révérence aussi.
Oui, mais il y a peut-être l'envie aussi, Jean, il y a peut-être l'envie aussi d'être numéro 1 aussi, tu vois, dans un club comme. Alors, en plus, tout ça, Toulouse.
Non, c'est trop de.
non, mais c'est.
Oui, non, mais t'as raison,
c'est énergivore.
Oui, c'est après, c'est une ambition. Mais t'as raison, mais après c'est vrai que la question qu'il faut se poser, c'est après quoi on court. C'est-à-dire que si t'as gagné je sais pas combien de titres de champion d'Europe, de France en tant que joueur, entraîneur, machin, oui, après le truc d'après c'est d'être numéro 1 et de refaire la même chose. Et là tu finis comme Guy à 60 quelques années.
C'est pour ça que je dis que vous êtes des jeunes entraîneurs. Votre âge,
oui, ils sont jeunes, bien sûr qu'ils sont jeunes.
Après Denis, l'ambition de devenir numéro 1, elle s'entend, mais... franchement, le niveau de responsabilité qui est le nôtre et notre, la manière dont on travaille ici à, au Stade Toulousain, franchement.
Oui, il n'y a pas partagé numéro 1, ce que tu veux numéro 2.
Bah, si, il y a numéro 1. Ne vous inquiétez pas, le patron, on sait tout ce qu'il sait. C'est Hugo, il n'y a pas de problème. Sauf que. Sauf que. Enfin, voilà.
Vous partagez beaucoup de choses, tu veux dire.
On partage
dans
tout.
Les tâches.
Tout.
Vous êtes, vous êtes complice, vous êtes.
On n'a pas de. Le bureau, c'est un open space. Oui, il ne s'enferme pas pour prendre ses décisions. Tout est partagé. Enfin, on sent que la responsabilité, même si c'est la sienne en tant que manager, et quand il y a à trancher, c'est lui qui le fait. Et quand il faut remettre les choses dans l'ordre, c'est lui qui le fait. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais par contre, il partage aussi ses responsabilités avec nous. Et on a un autre mot à dire. Donc, je veux dire, c'est pas comme si tu es relégué dans ton secteur et que personne ne te calcule. Voilà,
une forme d'épanouissement.
La victoire, je pense, du club, c'est celle des joueurs d'abord, du club dans son entièreté, mais aussi de l'ensemble du staff. Donc, il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Vous avez un grand président et de l'extérieur, ça se voit. Ça se ressent et le regard qu'on peut avoir sur votre club, c'est on voit quand même qu'il y a une bande de copains et les raisons pour lesquelles ça marche.
C'est aligné, il y a quelque chose de vertical. Juste sur Denis parlait de l'équipe de France, c'est comme quand on est joueur, on doit être ambitieux et tout, ça peut traverser la tête. Est-ce que ça peut traverser la tête?
Bah oui, bien sûr, ça peut traverser la tête. Après, c'est toujours pareil.
C'est l'occasion,
c'est avec
le moment,
qui
le timing.
Ouais.
Non, mais après, oui. Après, on a la chance d'entraîner quand même beaucoup de joueurs qui sont en équipe de France, et voire même sélectionnés dans d'autres pays.
L'équipe de France,
pays,
déjà.
Donc, il y a quand même, on a quand même cette chance-là.
Ouais. Mais on se dit pourquoi pas se mesurer, savoir si on est capable. Voilà.
Une cuisine.
Capable.
Une cuisine. Il va savoir.
Capable. Non.
J'arrête là. J'ai compris.
C'est pas une histoire de. Non, mais sincèrement, c'est pas. C'est
non,
pas
mais
une
la question
d'être,
un jour,
d'être capable ou pas capable. Ouais. Capable, je pense que.
Non, mais de se donner un défi, au moment, comme il disait, on a gagné 10 maintenant, quel est le prochain challenge, comme tout le monde
playa.
Dans le monde professionnel.
La playa au bord de l'eau, tranquille.
Ah, voilà. Ou Cardiff, les soirs à Cardiff.
C'est ça.
Notre ambition pour l'instant, c'est celle du Stade Toulousain, puis on verra par la suite.
Certainement dès samedi.
Ça, il a fait du Guido Vest, là, par exemple.
Une dernière question.
Tu vois, il a sorti une.
Normalement, il aurait dû rajouter. Attends, Denis, il aurait dû rajouter. On est dans nos petits souliers cette semaine. Voilà, c'était ce que disait Guinovès. Pardon, Denis, vas-y.
Je m'en souviens pas.
Non, la dernière question, c'est le petit Antoine, comment il va? Le petit taureau furieux.
On n'a pas posé une question sur Antoine Dupont, alors il fallait que Denis.
Il va bien.
Au
même titre que les autres qui. À la fois ceux qui ont gagné à Montpellier, qui ont pris un bol de confiance, et ceux qui sont restés à la niche se reposer, voilà, tout le monde est.
Non mais parce que
tout le monde était content de se retrouver.
On sent qu'Antoine est plus en forme que l'an passé à la même période.
Si je peux dire, rajouter Denis est peut-être un peu différent dans son jeu. Je sais pas si Clément, on finira là-dessus, si on le trouvait plus passeur à un moment, que là on sent que les duels il va les chercher et que c'est peut-être par rapport au 7, c'est les questions qu'on se pose justement par son physique, qu'on trouve qu'il a perdu un peu de poids, qu'il est un peu plus différent.
Ben, je pense que la gestion d'Antoine a été la bonne. Le fait de ne pas participer au tournoi Destination avec toute la pression que ça pouvait représenter de partir à l'autre bout du monde, prendre une bouffée d'oxygène sur un sport différent, avec des garçons différents autour de lui, avec une attente peut-être moins forte, puisque au final, novice sur le circuit, même si ça reste Antoine Dupont. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Et on le sait tous, la fatigue, elle est plus mentale que physique pour ces garçons qui sont surentraînés. Ils s'arrêtent 15 jours, ils ont récupéré. C'est pas tellement le problème de la fatigue physique. C'est ce dont on a besoin pour ces garçons qui ont des saisons à rallonge, et notamment des mecs qui ont fait la Coupe du Monde et puis qui ont enchaîné par le tournoi, c'est de la fraîcheur mentale. Et c'est vrai que ceux qui ont cravaché en restant ici, notamment ceux qui sont partis faire la tournée Destination, et Antoine qui a eu cette bouffée d'oxygène, on sent qu'il a une fraîcheur mentale qui est différente par rapport aux saisons précédentes. Et certainement dû au fait que, un, il a eu des plages de récupération, deux, il a eu la chance de participer au rugby à 7 qui lui a fait énormément de bien. J'espère on en aura les bénéfices d'ici la fin de saison, mais c'est sûr que mentalement, on le sent frais.
Et peut-être d'ici samedi. Merci messieurs d'avoir été avec nous.
Merci
très,
beaucoup.
Très sympa. Ouais. On gardera l'anecdote de l'eau bénite quand on verra Trevor Brennan. Denis, un pronostic pour samedi avec les deux. Tu vas pas me dire
sans
c'est l'Ainsa qui va gagner.
Le stade sans, ah. pas sans problème, mais je vois pas le stade perdre. pour de la raison,
dis c'est plutôt que tu vois le stade gagner. Alors
ils vont dire non. Ça suffit.
Non, mais je le dis vraiment très sincèrement parce qu'en fait. Le contexte n'est pas le même, les joueurs n'ont pas le même niveau que l'année dernière et que le collectif va faire la différence. Ils vont pas se faire prendre comme l'année dernière, ça c'est sûr. Donc ils vont pas la perdre, ils vont gagner.
Cette finale samedi 15h45 à vivre en direct en intégralité sur RMC. Merci de nous écouter, abonnez-vous sur les plateformes pour louper aucun épisode dans les poteaux. C'était vraiment sympa d'avoir Clément Poitronneau et Jean Bouillou aujourd'hui. On remercie Roxane Lacusca et Kevin Pogam qui pour la réalisation de cet épisode. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, on débriefera cette finale. Salut.